Bonjour à tous. Ça fait extrêmement plaisir de vous revoir. Ça fait 2 ans et demi quand même qu'on attend ça. Hein. Nous, je ne vais pas prétendre non plus, mais j'espère un peu. Voilà, c'est toujours compliqué de choisir un sujet pour parler dans une église qu'on ne fréquente plus. Je me suis pas posé trop de questions. J'ai pris un sujet qui me faisait réfléchir en ce moment. Donc, je vous propose pas un sujet très théologique. Je vous propose vraiment quelque chose qui me fait méditer en ce moment, qui m'a fait réfléchir, donc quelque chose de plutôt contemplatif. On va dire, il y a quelques temps, j'avais une Bible à la fin de l'édition de laquelle il y avait quelques citations d'hommes célèbres qui concernaient la Bible. Je n'ai pas pu vérifier la provenance de la citation que je vais vous dire parce que je me la suis fait voler depuis. J'espère qu'elle est promise à un grand avenir, mais peut-être un jour on me la rapportera avec l'ordi qui m'accompagne. C'est une citation de Mark Twain. Je vous la redonne en substance, mais il disait que il y avait beaucoup de disputes entre les chrétiens au sujet de passages d'interprétation compliquée, mais que lui, ce qui le choquait, c'était plutôt les passages évidents. Et c'est un peu ce genre de passage que je vous propose lesquels je vous propose de méditer ce matin. En fait, il n'y a pas longtemps, on recevait le frère et la belle-sœur de Marie, puis on a discuté justement des passages qui ne sont pas politiquement corrects du tout dans la Bible, et il nous en a livré un, et c'est vrai que en réfléchissant, j'étais bien embêté pour savoir quoi en faire de ce truc. Et voilà, c'est un peu sur ce passage qui se trouve dans le Deutéronome et sur un autre que je vous propose de réfléchir. C'est au chapitre 21 du Deutéronome. Au verset 18. Et j'enchaînerai ensuite avec un autre verset, toujours dans le même livre. Supposons qu'un homme est un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne leur obéisse pas, même après qu'ils l'ont puni. Le père et la mère le prendront, le conduiront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront. Il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. » C'est pas le genre de verset avec lequel on ferait de l'évangélisation aujourd'hui. Je vous dis peut-être, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir contempler là-dedans? Permettez-moi d'en rajouter une couche. Au chapitre 13 du même livre, toujours, les versets 7 à 12. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, pris parmi les dieux des peuples qui vous entourent, qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne te montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ton regard sera sans pitié envers lui. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Au contraire, tu le feras mourir. C'est ta main qui se lèvera la première contre lui pour le mettre à mort, puis celle de tout le peuple. Tu le lapideras, il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tous les Israélites en entendront parler et éprouveront de la crainte, et ainsi on ne commettra plus d'actes aussi criminels au milieu de toi. Voilà. Alors, dans la culture dans laquelle on vit, occidentale, c'est profondément choquant de lire des choses comme ça. Quand on parle du premier passage avec le parent qui va livrer son propre enfant. Un parent, c'est censé avoir un rôle protecteur. Et dans notre société, dénoncer son propre enfant, ce serait plutôt justement un aveu de manque d'amour, une preuve de manque d'amour. C'est inimaginable. Dans la société dans laquelle on vit, la fidélité, elle est parfois présentée comme une valeur plus haute que la justice. Quand vous regardez des films de gangsters, entre eux, ils se soutiennent, ils sont fidèles. Et celui qui trahit, même si c'est la, même s'il respecte la loi, c'est le méchant dans le film. Et là, aller livrer celui qui fait partie de notre propre famille, c'est lunaire pour nous. Ça nous semble, mais c'est complètement décalé avec notre société. Sans parler du fait qu'en plus, il faut le lapider avec la perception qu'on a aujourd'hui de l'exécution par la lapidation. C'est un déchaînement de haine barbare plutôt qu'une possibilité envisageable d'exécution. On a des, pour les pays qui pratiquent encore la peine de mort, ils ne font pas par lapidation. Enfin, pour les pays occidentaux. Genre. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de pousser les membres du peuple à faire là? Est-ce qu'il est en train de les pousser à se dénoncer jusque parmi les membres de leur propre famille, parmi ceux qui sont le plus proches, pire, de les pousser à participer à l'exécution des membres de leur propre famille? Comment est-ce que c'est possible? Et comment est-ce que nous, on doit se débrouiller avec des passages qui sont dans la Bible, qu'on reconnaît comme parole de Dieu? Aujourd'hui, si en discutant avec un non-chrétien, il nous renvoyait ce passage dans la figure, on serait peut-être drôlement embêté de lui répondre quelque chose de satisfaisant. Alors, avant d'avancer plus loin, je voudrais évacuer une explication que je trouve tout à fait non satisfaisante. C'est de dire, c'était la loi, on vit plus sous la loi. Et on y va comme ça, quoi. Oui, mais on prétend quand même qu'aujourd'hui, on adore le même Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament. Et même si on n'est plus sous la loi, si on trouve que le Dieu de l'Ancien Testament est l'ultra-arbitraire sanglant, etc., c'est le même Dieu qu'on adore. Ça pose un souci, parce que si on ne peut pas lui faire confiance dans l'Ancien Testament pour les membres de notre propre famille, il n'y a pas de raison qu'on lui fasse plus confiance aujourd'hui. Donc il y a une grosse incohérence à dire ça. On ne peut pas l'évacuer aussi facilement. Voilà, j'avais marqué « si Dieu qui incite à la délation au sein des familles, si le Dieu que nous adorons est celui qui incite à la délation au sein des familles, comment pouvons-nous parler de la paix et de la sécurité qu'on trouve en lui ?» Alors, une première chose à faire, peut-être, c'est de mettre le texte en perspective, parce qu'on est quand même des milliers d'années après la publication de ce texte, et dans une culture qui est extrêmement différente de celle dans laquelle vivaient les Israélites. Et il faut quand même, avant de prendre le texte comme il nous apparaît, le regarder avec les yeux qu'eux pouvaient avoir, dans la mesure où on en est capable. Ce serait injuste vis-à-vis du texte de procéder juste en disant ouais, c'est barbare, c'est has-been, du coup on découpe une page de notre Bible avec un ciseau. Alors dans quel contexte ça a été écrit? Alors le contexte du Deutéronome, il est écrit, l'auteur parle depuis un endroit juste avant l'entrée dans le pays promis par le peuple d'Israël. Ils sont juste devant le Jourdain. Et là, il y a un renouvellement de l'alliance qui est proposé. Dans une première section, Moïse va rappeler au peuple les événements passés depuis le Sinaï jusqu'au moment présent. Et en particulier, il va rappeler les infidélités du peuple. Et après cette première section, qui va du chapitre 1 à 4 grossièrement, à partir du chapitre 5, on a une deuxième section qui ressemble plus à une section de loi, avec des enseignements très généraux et en fait des avertissements répétés contre l'idolâtrie. Parce que le peuple va entrer dans le pays et Dieu le prévient que vous allez côtoyer des gens qui adorent d'autres dieux. Vous ne pourrez pas les éliminer tout de suite, hein, il le dit clairement, faudra les éliminer. Mais vous ne pourrez pas le faire tout de suite, donc vous allez vivre à côté d'eux pendant des années. Et faites très attention, parce que vous n'adorerez pas leur dieu. Il ne faut pas le faire. Donc, et il y a plusieurs avertissements répétés contre cette tentation de l'idolâtrie dans cette deuxième section qui va des chapitres 5 à 11. Et après, il y a une troisième section avec des lois vraiment un peu mélangées, mais des lois plus particulières qui se traduisent dans des contextes plus concrets pour les membres du peuple, qui concernent tous les aspects de la vie. Une section qui va du chapitre 12 au chapitre 26. Et c'est cette section où se trouvent les deux passages que j'ai tirés. Donc ça, il y a des lois sur la manière de pratiquer le culte, sur le calendrier des fêtes, mais aussi sur la justice courante, qu'est-ce qu'on fait avec les meurtriers, qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi avec les meurtriers, parce qu'il y a une forme de protection de celui qui a fait un meurtre sans l'avoir voulu, avec les villes de refuge, des choses comme ça. Il y a des lois pour la protection de l'immigré, pour la protection du veuf. Il y a aussi des lois comme ça qui, elles, on a plus de facilité à méditer là-dessus. Et il y a des lois sur la guerre et sur la vie de famille, entre autres les deux que j'ai cités. Autre chose, c'est que dans l'Ancien Testament, la dimension communautaire, elle est beaucoup plus présente que dans notre société. Dans notre société, on appuie beaucoup sur l'individu. Alors que dans le peuple d'Israël, c'est le peuple qui devait être saint. Et en fait, le peuple avait le droit de regard sur ce qui se passait dans les familles. D'ailleurs, on le voit dans les passages. Les parents, ils doivent amener leur enfant aux anciens de la ville, à la porte de la ville. Et c'est là que l'enfant est jugé. Et pareil, en fait, quand on doit dénoncer l'idolâtrie d'un membre de notre famille, on participe à l'exécution, mais c'est finalement tous les membres du peuple qui vont prendre une pierre, qui vont participer. Donc c'est quelque chose de très communautaire. Et c'est une dimension à laquelle on est beaucoup moins sensible aujourd'hui. Nous. On a beaucoup de mal à accepter que quelqu'un vienne à donner un droit de regard sur ce qui se passe dans nos foyers à des gens qui n'en font pas partie. Alors, dans le premier passage que j'ai lu, il y a un délit d'idolâtrie qui est flagrant, en fait. C'est ça qui est puni, clairement, explicitement. Dans le deuxième passage, j'aimerais justifier que c'est finalement un peu la même chose, même si c'est moins apparent. Si on relit le passage, en fait, l'idolâtrie n'est pas citée. C'est un enfant qui ne respecte pas ses parents, malgré les punitions, qui est ivrogne, qui les déshonore. Et j'aimerais justifier en disant que, justement, Dieu a donné les 10 commandements, et je crois le cinquième, hein, c'est « tu honoreras ton père, ta mère ». C'est un des 10 commandements, un des commandements principaux. Et en fait, la famille, l'autorité des parents dans la famille, peut être comprise comme un relais de l'autorité de Dieu sur son peuple, en fait. La relation peuple à Dieu est un peu la relation enfant à parent. Et finalement, quand l'enfant ne va pas respecter l'autorité de ses parents, c'est comme s'il rejetait l'autorité que Dieu a donnée à ses parents, l'autorité de Dieu sur lui. Et c'est une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, on peut l'expliquer depuis le jardin d'Éden. Que disent les hommes à Dieu ? Ben, on a envie d'être nos propres dieux et on va se débrouiller sans toi. On va décider tout seul de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et c'est ça, finalement. Et quand on fait ça, on se choisit un autre Dieu que Dieu. Ça peut être, à l'époque, ça sera les idoles, qui sont probablement, avec lesquelles il est probablement plus facile de traiter qu'avec Dieu, qui est assez inflexible, hein, ça ressort bien dans ces passages. Aujourd'hui, ça peut être simplement nous-mêmes. Et dans une société humaniste, c'est l'homme qui a la mesure de toute chose. C'est l'homme qui va décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est finalement une forme d'idolâtrie qui est condamnée aussi dans le premier passage que j'ai lu, où les parents vont livrer leur propre enfant. Et ça va directement dans la suite de cette deuxième section où Dieu n'arrêtait pas d'avertir le peuple. Attention, vous allez être tentés par l'idolâtrie, vous allez être extrêmement tentés par l'idolâtrie. Dieu n'arrête pas de les avertir. Et finalement, tous les commandements concret qu'on va trouver dans cette troisième section du Deutéronome, sont des applications pour se garder de l'idolâtrie de laquelle Dieu les a prévenus dans cette deuxième section. Alors, comment est-ce que maintenant les membres du peuple pouvaient comprendre qu'est-ce qu'ils pouvaient percevoir de Dieu au travers de commandements qui nous choquent autant ? Alors, il y a quand même des choses à en tirer. La première, il me semble, c'est la priorité de la gloire de Dieu dans la vie de celui qui s'approche de Dieu. Ses plus proches amis, sa famille, ses enfants, sa femme, passent après Dieu. Si le but premier de sa vie, ça va être la sainteté de Dieu. Et c'est ça qu'il va préserver en priorité, qu'il doit préserver jusque dans sa famille. Ça, c'est mon deuxième point, c'est... La, l'inflexibilité de ses commandements, ça montre aussi la sainteté de Dieu. C'est vraiment un Dieu d'une telle pureté qu'il n'y a rien qui puisse s'en approcher sans refléter cette pureté. Et on ne peut pas s'approcher d'un tel Dieu en tolérant autour de soi des comportements idolâtres, des comportements, c'est complètement contradictoire. Et le troisième point que les destinataires du texte pouvaient comprendre, c'est en creux la fragilité de la résolution humaine. Parce que si Dieu veut couper court à toute manifestation idolâtre avec des commandements d'une telle radicalité, ben, il fallait que l'idolâtrie, elle exerce une attraction quasiment irrésistible sur les hommes pour devoir les en dissuader avec une telle violence. Et les membres du peuple, je pense, devaient se dire que pour que Dieu en arrive à de telles extrémités, il fallait que la tentation soit très forte chez eux. Alors, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces passages? Alors, dans le Nouveau Testament, je pense que je vais rassurer tout le monde, il n'y a pas d'appel à la lapidation. Mais quand même, on a des textes qui vont dans la droite ligne des principes qu'on a dégagés sur la sainteté, sur la priorité de Dieu et sur la fragilité de nos résolutions. Quand Jésus prévient les foules qui le suivent, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer son père, sa mère, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ça, c'est quand même directement dans la continuité de ce qu'on a lu. Même si la lapidation n'est pas présente, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus audible aujourd'hui par les gens qui nous entourent. Quand Jésus enseigne la prière à ses disciples, par quoi commence-t-il ? « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sans nécessiter la mention de la lapidation, ces textes, ils nous invitent à laisser dans nos vies la première place à Dieu. Et pour les gens qui nous entourent, ça, c'est intolérable. C'est abdiquer notre libre arbitre. Vouloir que la volonté de quelqu'un d'autre soit faite plutôt que nos désirs à nous, c'est pas possible. C'est pas ce que nous vend la société. Où aujourd'hui, une des valeurs qui est prônée, c'est l'accomplissement de soi. Vouloir que le règne de quelqu'un vienne sur nous, c'est pas ce que nous vend la société. Et donc vouloir que la première chose que nous promouvions autour de nous, c'est la sainteté de Dieu, et pas que nous recherchions à ce que les autres nous renvoient une image satisfaisante de nous-mêmes, c'est pas non plus quelque chose qui est facile à accepter. Alors, ce que j'ai mis, c'est choisir de ne considérer comme étalon de nos vies que le regard du Seigneur sur nous, et pas ce que nous renvoient tous ceux, même ceux qui nous aiment, dans nos propres familles, au fond, c'est renoncer à une certaine position sociale. Et ça m'a amené à ces questions qui me font réfléchir, et je vous les livre pas comme une leçon, mais vraiment comme quelque chose qui me fait réfléchir pour mon cas à moi. Est-ce que mes enfants, est-ce que mes parents, est-ce que Marie, ma conjointe, est-ce que mes collègues, est-ce que mes amis constatent la priorité de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'ils le voient? Quelle est la place que j'accorde à Dieu dans ma famille? Quelle est la place que j'accorde à Dieu dans ma carrière? Quelle est la place que j'accorde à Dieu dans mes loisirs? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut lâcher tous nos jobs pour trouver un boulot qui soit directement à l'œuvre, travailler dans une édition chrétienne ou partir en mission, ou qu'il faille résilier tous nos amendements à la salle de sport. Mais ça vaut le coup de se poser la question, en quoi est-ce que ce que je pratique n'est pas simplement tourné vers moi et permet aussi de glorifier Dieu? Si Dieu vraiment est à la première place de nos vies et doit imprégner 100% de nos vies et 100% de nos emplois du temps, alors ça vaut le coup de se poser cette question. Où est-ce qu'il est présent au quotidien? Dans quelle mesure l'investissement que nous consentons dans chacun de ces domaines n'est pas quelque chose qui nous renvoie à une image de nous, mais aussi, mais quelque chose qui, en priorité, va glorifier Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de sport, hein, mais après, j'imagine que s'enfermer dans une cage de MMA, je vois mal comment on va glorifier Dieu dans ce cas-là, mais il y a quand même des tonnes de manières de glorifier Dieu en prenant soin de son corps. C'est quand même quelque chose que Dieu nous a donné et dont on est responsable. Il y a moyen de partager avec ceux avec qui on pratique le sport en question, j'imagine. Mais c'est simplement la réflexion que je vous livre. Je viens pas livrer de réponse avec. Mais pour moi, c'est des questions qui me font réfléchir et qui m'obligent à remettre Dieu à la première place de ma vie au quotidien. Mais malgré tout ça, si on revient au passage dont je suis parti au début dans le Deutéronome, l'horreur persiste. Je n'ai pas tout enlevé en réfléchissant au principe qu'on pouvait en tirer pour nous aujourd'hui et au principe que pouvait en tirer un Israélite. Quand je lis ces passages, j'ai quand même un mouvement de recul, un mouvement d'horreur. Est-ce que Dieu demande vraiment au peuple, aux membres du peuple, d'aimer leurs enfants avant de les dénoncer pour qu'ils soient exécutés? Ça nous paraît intolérable. Et en fait, en réfléchissant à ce passage, moi je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a des cas qui font jurisprudence dans la Bible? Et en fait, j'ai plutôt trouvé des contre-exemples. Dans l'Ancien Testament, je pensais à Élie, le prêtre qui avait élevé Samuel. Ses propres enfants avaient des comportements complètement déplacés vis-à-vis du culte de l'Éternel et ils tombent sous le joug de ce commandement. Élie n'a rien fait. Derrière, on prend Samuel. Les propres enfants de Samuel ont été l'excuse pour le peuple de venir réclamer un roi parce qu'ils ne se comportaient pas bien. Ils acceptaient des pots de vin, etc. Les propres enfants du prophète Samuel tombaient sous le joug de ce commandement. Samuel n'a rien fait. David, le roi, il a son fils aîné viole sa sœur. Son deuxième fils tue son frère. Essaye de prendre la place de David avec tous les détails dont on se passera de rappeler la teneur. David, il n'a pas voulu exécuter ses propres fils. On s'en est chargé malgré lui. David n'a pas réussi à appliquer ses commandements. Et en fait, je n'ai trouvé personne qui arrive à pratiquer cette espèce de dichotomie. D'un côté, j'aime mon enfant, et de l'autre côté, j'aime Dieu plus que mon enfant et je condamne mon enfant. Et j'aimerais... Il y a un passage qui, pour moi, a été un peu la clé de cette réflexion. Alors, ce n'est pas dans le Deutéronome, cette fois-ci, c'est dans le chapitre 22 de la Genèse. Alors, c'est un épisode qui est archi connu, je pense que... Et je lirai simplement les deux premiers versets. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. » Là aussi, c'est un passage qui est difficile à faire avaler nous-mêmes, si on est honnête. Je ne comprends pas comment Abraham a réussi à prendre son fils et lui dire « Allez, on y va, quoi. » D'accord, l'Épître aux Hébreux dit qu'il savait que... Enfin, il se doutait que Dieu le ressusciterait, mais quand même. Et plus loin dans le livre de la Genèse, un moment, c'est au moment où Jacob fait alliance avec Laban. Il fait alliance par le nom de Dieu. Terreur d'Isaac. Il avait un oncle psychologue qui disait que le sacrifice, même si le couteau n'a pas fini le travail, Isaac, ça avait quand même dû lui laisser des marques. Et ce n'est pas parce que Dieu a arrêté le sacrifice avant qu'Isaac soit tué que le geste en lui-même n'est pas horrible. Mais Abraham a presque fait ce geste. Finalement, c'est celui qui est allé le plus loin dans l'Ancien Testament. Mais ce qui m'intéressait dans ce passage, c'est la manière dont Dieu interpelle Abraham. Je crois que dans la Darby, c'est « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Et en fait, il lui aurait dit « Prends ton fils et vas-y, ça suffisait. » Je pense qu'Abraham, il avait compris. Et là, il y a cette espèce de formulation où il remue le couteau dans la plaie, « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » On a l'impression presque que Dieu est sadique, tellement il joue avec l'amour qu'Abraham ressent pour son fils. Mais en fait, quand Dieu montre à Abraham qu'il comprend exactement ce qu'Abraham ressent vis-à-vis de son fils, Dieu, en creux, sous-entend que s'il le comprend, c'est qu'il l'expérimente lui-même. Cette relation, Dieu, il la vit avec son propre fils. Et en fait, je me suis... En passant tous les exemples de l'Ancien Testament, des gens qui n'avaient pas réussi à appliquer ces lois, dans la conversation, j'ai dit, mais en fait, est-ce qu'il y a un cas qui où quelqu'un a réussi à l'appliquer? Et Marie s'est tournée vers moi, elle m'a fait, bah ouais, il y a Dieu. Et c'est vrai que ça m'est tombé dessus, et j'ai fait, ouais, en fait, il y a eu Dieu. C'est le seul, finalement, que la Bible présente comme ayant livré son fils aux autorités pour que les autorités l'exécutent. C'est le seul, à la différence que Jésus, lui, n'avait rien fait. Les péchés qu'il a portés, c'était les nôtres. À un moment, Jésus va dire pendant son ministère qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Et sans forcément comprendre exactement la logique, ça change complètement la manière dont on regarde les passages. Ça a changé complètement la manière dont moi je regardais les passages que j'ai cités au début. Qu'est-ce qu'il y a comme plus-value à ces lois qui sont terribles si Dieu les a annulées en faisant passer son fils sous ces lois ? Avec l'accomplissement de ces lois par Dieu lui-même, par Dieu le Fils, le prix est payé, et en fait, la sainteté, qui était une barrière tellement inaccessible pour m'approcher de Dieu, cette barrière n'existe plus. La faiblesse de nos résolutions, que j'ai citée au début, qui était soulignée par ces lois, une fois que la condamnation a été portée par quelqu'un, qu'il n'y a plus de condamnation, je peux librement avouer ma faiblesse. Je n'ai plus à la cacher pour faire comme si je n'avais pas besoin d'appliquer cette loi. Je peux avouer ma faiblesse à tenir tout engagement qui ne reposerait que sur moi. Et une fois que ma faiblesse est avouée, cette tendance à rechercher mon indépendance vis-à-vis de Dieu, cette tendance naturelle parmi nous tous, l'esprit que Dieu me donne, l'esprit par lequel Dieu vient habiter en moi, me pousse progressivement à abandonner cette tendance. Et grâce à lui, je peux donner la priorité à Dieu dans ma vie. Ce n'est pas instantané, c'est progressif, et on aura du boulot jusqu'à notre mort sur ce plan-là. Mais par la grâce de Dieu, je peux le faire aujourd'hui. Et tous ces principes que j'avais dégagés de ces commandements de l'Ancien Testament ne sont réellement applicables que parce que Dieu a fait payer à son Fils le prix par lequel, la condamnation à laquelle nous aurions tous dû passer. Parce qu'au fond, quand on se regarde, au vu de cette loi, on aurait tous dû être amenés par nos parents, qui eux-mêmes auraient dû être amenés par leurs parents, et ainsi de suite, à la porte de la ville. Et il n'y aurait pas suffisamment de pierres sur terre pour toutes les lapidations qu'il aurait dû y avoir. Et en fait, il n'y a eu besoin que d'un sacrifice. Mais c'est le seul qui compte vraiment et c'est le seul qui n'aurait pas dû être sacrifié. Alors, je vous propose pour terminer de lire un passage, c'est toujours dans le Deutéronome, au chapitre 6. Au verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données ? Tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa nation, sa maison, pardon. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ses prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. En fait, j'ai lu ce passage la première fois dans la version Semeur et le verset 20 m'a sauté aux yeux parce que la traduction, alors elle est un peu isolée, je ne suis pas sûr que ce soit la plus fiable, mais je la trouve tellement symptomatique de ce que pourraient nous retourner les gens aujourd'hui. Là, c'est dans la seconde 21 dans laquelle je lis, c'est « Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données ?» Dans la Semeur, c'était « Mais de quel droit ?» Dieu vous somme d'obéir à ses commandements. Et en fait, c'est tellement symptomatique de la société qui nous entoure. Non mais en admettant que Dieu existe, mais pour qui il se prend de venir nous demander d'obéir, quoi ? On accepte à la limite un Dieu sauveur, mais un Dieu Seigneur, faut pas pousser. De quel droit ? Et la réponse, ben c'est il nous a sauvés, il nous a délivrés. Alors pour les Israélites, c'était du Pharaon, pour nous ce sera du péché. Et il nous demande d'obéir à ses prescriptions qui vont suivre. Et pour nous, aujourd'hui, il a fait plus que ça. Et quand quelqu'un devance les versets que j'ai cités au début, va nous dire, mais de quel droit Dieu pourrait demander d'obéir à ses commandements ? Ben, on pourrait dire, Dieu, il est souverain, il a tous les droits. Mais s'il me demande d'obéir à ses commandements, c'est surtout pour me montrer mon incapacité à y obéir. Et ensuite, il y a obéi pour moi, dans un sens. Et ça, ça nous délivre, finalement, je trouve. Moi, ça me délivre du poids d'expliquer de tels passages qui me dépassent dans l'application. Je confesse complètement être incapable d'appliquer la loi de Dieu quand je lis des passages comme ça. Mais Dieu a permis, il a, et finalement, le dernier verset, nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Nous, aujourd'hui, on pourrait dire, nous aurons droit à la justice parce qu'il a veillé à mettre en pratique tous ces commandements. Et c'est finalement assez merveilleux, je trouve.